Lettres écrites d'Égypte et de Nubie en 1828 et 1829, écrites par Jean-François Champollion. 13e lettre, partie 1 de 2. Thèbes, Biban el Molouk, le 26 mai 1829. Les détails topographiques donnés par Strabon ne permettent point de chercher ailleurs que dans la vallée de Biban el Molouk l'emplacement des tombeaux des anciens rois. Le nom de cette vallée, qu'on veut entièrement dériver de l'arabe en le traduisant par « les portes des rois », mais qui est à la fois une corruption et une traduction de l'ancien nom égyptien Biban ou Rou, les hypogées des rois, comme l'a fort bien dit M. Sylvestre de Sassy, lèverait d'ailleurs toute espèce de doute à ce sujet. C'était la nécropole royale, et on avait choisi un lieu parfaitement convenable à cette triste destination, une vallée aride encaissée par de très hauts rochers coupés à pic, ou par des montagnes en pleine décomposition, offrant presque toutes de larges fentes occasionnées soit par l'extrême chaleur, soit par des éboulements intérieurs, et dont les croupes sont parsemées de bandes noires, comme si elles eussent été brûlées en partie. Aucun animal vivant ne fréquente cette vallée de mort. Je ne compte point les mouches, les renards, les loups et les hyènes, parce que c'est notre séjour dans les tombeaux et l'odeur de notre cuisine qui avait attiré ces quatre espèces affamées. En entrant dans la partie la plus reculée de cette vallée, par une ouverture étroite, évidemment faite de main d'homme, et offrant encore quelques légers restes de sculptures égyptiennes, on voit bientôt au pied des montagnes ou sur les pentes des portes carrées, encombrées pour la plupart et dont il faut approcher pour apercevoir la décoration. Ces portes, qui se ressemblent toutes, donnent entrée dans les tombeaux des rois. Chaque tombeau a la sienne, car jadis aucun ne communiquait avec l'autre. Ils étaient tous isolés. Ce sont les chercheurs de trésors, anciens ou modernes, qui ont établi quelques communications forcées. Il me tardait, en arrivant à Biban el Molouk, de m'assurer que ces tombeaux, au nombre de 16, je ne parle ici que des tombeaux conservant des sculptures et les noms des rois pour qui ils furent creusés, était bien, comme je l'avais déduit d'avance, de plusieurs considérations. Ceux de rois appartenant tous à des dynasties thébaines, c'est-à-dire à des princes dont la famille était originaire de Thèbes. L'examen rapide que je fis alors de ces excavations, avant de monter à la seconde cataracte, et le séjour de plusieurs mois que j'y ai fait à mon retour, m'ont pleinement convaincu que ces hypogées ont renfermé les corps des rois des 18e, 19e et 20e dynasties, qui sont en effet toutes trois des dynasties diospolitaines ou thébaines. Ainsi, j'y ai trouvé d'abord les tombeaux de 6 des rois de la 18e et celui du plus ancien de tous, Aménophis même nom, inhumé à part dans la vallée isolée de l'ouest. Viennent ensuite le tombeau de Ramsès Meïamoun et ceux de 6 autres pharaons, successeurs de Meïamoun et appartenant à la 19e ou à la 20e dynastie. On n'a suivi aucun ordre, ni de dynastie, ni de succession, dans le choix de l'emplacement des diverses tombes royales. Chacun a fait creuser la sienne sur le point où il croyait rencontrer une veine de pierre convenable à sa sépulture et à l'immensité de l'excavation projetée. Il est difficile de se défendre d'une certaine surprise lorsque, après avoir passé sous une porte assez simple, on entre dans de grandes galeries ou corridors couverts de sculptures parfaitement soignées, conservant en grande partie l'éclat des plus vives couleurs et conduisant successivement à des salles soutenues par des piliers encore plus riches de décoration, jusqu'à ce qu'on arrive enfin à la salle principale, celle que les Égyptiens nommaient la salle dorée, plus vaste que toutes les autres, et au milieu de laquelle reposait la momie du roi dans un énorme sarcophage de granit. Les plans de ces tombeaux, publiés par la Commission d'Égypte, donnent une idée exacte de l'étendue de ces excavations et du travail immense qu'elles ont coûté pour les exécuter au pic et au ciseau. Les vallées sont presque toutes encombrées de collines formées par les petits éclats de pierre provenant des effrayants travaux exécutés dans le sein de la montagne. Je ne puis tracer ici une description détaillée de ces tombeaux. Plusieurs mois m'ont à peine suffi pour rédiger une notice un peu détaillée des innombrables bas-reliefs qu'ils renferment et pour copier les inscriptions les plus intéressantes. Je donnerai cependant une idée générale de ces monuments par la description rapide et très succincte de l'un d'entre eux, celui du pharaon Ramsès, fils et successeur de Meïamoun. La décoration des tombeaux royaux était systématisée, et ce que l'on trouve dans l'un reparaît dans presque tous les autres, à quelques exceptions près, comme je le dirai plus bas. Le bandeau de la porte d'entrée est orné d'un bas-relief, le même sur toutes les premières portes des tombeaux royaux, qui n'est au fond que la préface, ou plutôt le résumé, de toute la décoration des tombes pharaoniques. C'est un disque jaune, au milieu duquel est le soleil à tête de bélier, c'est-à-dire le soleil couchant entrant dans l'hémisphère inférieur et adoré par le roi à genoux. À la droite du disque, c'est-à-dire à l'orient, est la déesse Nephthys, et à la gauche, occident, la déesse Isis, occupant les deux extrémités de la course du dieu dans l'hémisphère supérieur. À côté du soleil et dans le disque, on a sculpté un grand scarabée qui est ici, comme ailleurs, le symbole de la régénération ou des renaissances successives. Le roi est agenouillé sur la montagne céleste, sur laquelle portent aussi les pieds des deux déesses. Le sens général de cette composition se rapporte au roi défunt. Pendant sa vie, semblable au soleil dans sa course de l'Orient à l'Occident, le roi devait être le vivificateur, l'illuminateur de l'Égypte et la source de tous les biens physiques et moraux nécessaires à ses habitants. Le pharaon mort fut donc encore naturellement comparé au soleil se couchant et descendant vers le ténébreux hémisphère inférieur qu'il doit parcourir pour renaître de nouveau à l'Orient et rendre la lumière et la vie au monde supérieur, celui que nous habitons, de la même manière que le roi défunt devait renaître aussi, soit pour continuer ses transmigrations, soit pour habiter le monde céleste et être absorbé dans le sein d'Amon, le Père universel. Cette explication n'est point de mon cru. Le temps des conjectures est passé pour la vieille Égypte. Tout cela résulte de l'ensemble des légendes qui couvrent les tombes royales. Ainsi, cette comparaison ou assimilation du roi avec le soleil dans ces deux états, pendant les deux parties du jour, est la clé, ou plutôt le motif et le sujet dont tous les autres bas-reliefs ne sont, comme on va le voir, que le développement successif. Dans le tableau décrit est toujours une légende dont suit la traduction littérale. Voici ce que dit Osiris, seigneur de Lamenti, région occidentale habitée par les morts. Je t'ai accordé une demeure dans la montagne sacrée de l'Occident, comme aux autres dieux grands, les rois, ses prédécesseurs. À toi, Osirien, roi seigneur du monde, Ramsès, etc. Encore vivant. Cette dernière expression prouverait, s'il en était besoin, que les tombeaux des pharaons, ouvrages immenses et qui exigeaient un travail fort long, étaient commencés de leur vivant et que l'un des premiers soins de tout roi égyptien fut, conformément à l'esprit bien connu de cette singulière nation, de s'occuper incessamment de l'exécution du monument sépulcral qui devait être son dernier asile. C'est ce que démontre encore mieux le premier bas-relief qu'on trouve toujours à la gauche en entrant dans tous ces tombeaux. Ce tableau avait évidemment pour but de rassurer le roi vivant sur le fâcheux augure qui semblait résulter pour lui du creusement de sa tombe au moment où il était plein de vie et de santé. Ce tableau montre en effet le pharaon en costume royal, se présentant au dieu Fré à tête d'épervier, c'est-à-dire au soleil dans tout l'éclat de sa course, à l'heure de midi, lequel adresse à son représentant sur la terre ses paroles consolantes. Voici ce que dit Fré, Dieu grand, Seigneur du ciel. Nous t'accordons une longue série de jours pour régner sur le monde et exercer les attributions royales d'Horus sur la terre. Au plafond de ce premier corridor du tombeau, on lit également de magnifiques promesses faites au roi pour cette vie terrestre, et le détail des privilèges qui lui sont réservés dans les régions célestes. Il semble qu'on ait placé ici ces légendes comme pour rendre plus douce la pente toujours trop rapide qui conduit à la salle du sarcophage. Immédiatement après ce tableau, sorte de précaution oratoire assez délicate, on aborde plus franchement la question par un tableau symbolique, le disque du soleil cryocéphale, parti de l'Orient et avançant vers la frontière de l'Occident, qui est marqué par un crocodile, emblème des ténèbres, et dans lesquels le dieu et le roi vont entrer chacun à sa manière. Suit immédiatement un très long texte contenant les noms des 75 parèdres du soleil dans l'hémisphère inférieur et des invocations à ces divinités du troisième ordre, dont chacune préside à l'une des 75 subdivisions du monde inférieur, qu'on nommait Kélé, demeure qui enveloppe enceinte zone. Une petite salle qui succède ordinairement à ce premier corridor contient les images sculptées et peintes des 75 parèdres, précédées ou suivies d'un immense tableau dans lequel on voit successivement l'image abrégée des 75 zones et de leurs habitants, dont il sera parlé plus loin. À ces tableaux généraux et d'ensemble succède le développement des détails. Les parois des corridors et salles qui suivent, presque toujours les parois les plus voisines de l'Orient, sont couvertes d'une longue série de tableaux représentant la marche du soleil dans l'hémisphère supérieur, image du roi pendant sa vie. Et sur les parois opposées, on a figuré la marche du soleil dans l'hémisphère inférieur, image du roi après sa mort. Les nombreux tableaux relatifs à la marche du Dieu au-dessus de l'horizon et dans l'hémisphère lumineux sont partagés en 12 séries, annoncées chacune par un riche battant de porte sculpté et gardé par un énorme serpent. Ce sont les portes des 12 heures du jour, et ces reptiles ont tous des noms significatifs, tels que Tekho, serpent à face étincelante, Satempefbal, serpent dont l'œil lance la flamme, Tapentho, la corne du monde, etc., etc. À côté de ces terribles gardiens, on lit constamment la légende « Il demeure au-dessus de cette grande porte et l'ouvre au Dieu Soleil. » Près du battant de la première porte, celle du lever, on a figuré les 24 heures du jour astronomique sous forme humaine, une étoile sur la tête et marchant vers le fond du tombeau comme pour marquer la direction de la course du Dieu et indiquer celle qu'il faut suivre dans l'étude des tableaux, qui offrent un intérêt d'autant plus piquant que dans chacune des 12 heures de jour, on a tracé l'image détaillée de la barque du Dieu naviguant dans le fleuve céleste sur le fluide primordial, ou l'éther, le principe de toutes les choses physiques selon la vieille philosophie égyptienne, avec la figure des dieux qui l'assistent successivement, et de plus, la représentation des demeures célestes qu'ils parcourent, et les scènes mythiques propres à chacune des heures du jour. Ainsi, à la première heure, sa bari, ou barque, se met en mouvement et reçoit les adorations des esprits de l'Orient. Parmi les tableaux de la seconde heure, on trouve le grand serpent Apophis, le frère de l'ennemi du soleil, surveillé par le dieu Atmou. À la troisième heure, le dieu soleil arrive dans la zone céleste où se décide le sort des âmes relativement au corps qu'elles doivent habiter dans leur nouvelle transmigration. On y voit le dieu Atmou assis sur son tribunal, pesant à sa balance les âmes humaines qui se présentent successivement. L'une d'elles vient d'être condamnée, on la voit ramenée sur terre dans une bari qui s'avance vers la porte gardée par Anubis et conduite à grands coups de verge par des cynocéphales, emblème de la justice céleste. Le coupable est sous la forme d'une énorme truie, au-dessus de laquelle on a gravé en grand caractère « gourmandise » ou « gloutonnerie », sans doute le péché capital du délinquant, quelques gloutons de l'époque. Le dieu visite, à la cinquième heure, les Champs-Élysées de la mythologie égyptienne, habitées par les âmes bienheureuses se reposant des peines de leur transmigration sur la terre. Elles portent sur leur tête la plume d'autruche, emblème de leur conduite juste et vertueuse. On les voit présenter des offrandes aux dieux, ou bien, sous l'inspection du Seigneur de la joie du cœur, elle cueille les fruits des arbres célestes de ce paradis. Plus loin, d'autres tiennent en main des faucilles. Ce sont les âmes qui cultivent les champs de la vérité. Leur légende porte « Elles font des libations, de l'eau et des offrandes, des grains, des campagnes de gloire. » Elles tiennent une faucille et moissonnent les champs qui sont leur partage. Le dieu soleil leur dit, prenez vos faucilles, moissonnez vos grains, emportez-les dans vos demeures, jouissez-en et les présentez aux dieux en offrande pure. Ailleurs, enfin, on les voit se baigner, nager, sauter et folâtrer dans un grand bassin que remplit l'eau céleste et primordiale, le tout sous l'inspection du dieu Nil céleste. Dans les heures suivantes, les dieux se préparent à combattre le grand ennemi du soleil, le serpent Apophis. Ils s'arment d'épieux, se chargent de filets, parce que le monstre habite les eaux du fleuve sur lequel navigue le vaisseau du soleil. Ils tendent des cordes. Apophis est pris. On le charge de liens. On sort du fleuve cet immense reptile au moyen d'un câble que la déesse Selk lui attache au cou et que les 12 dieux tirent, secondés par une machine fort compliquée, manœuvrée par le dieu Sève, Saturne, assisté des génies des 4 points cardinaux. Mais tout cet attirail serait impuissant contre les efforts d'Apophis s'il ne sortait d'en bas une main énorme, celle d'Amon, qui saisit la corde et arrête la fougue du dragon. Enfin, à la 11e heure du jour, le serpent captif est étranglé. Et bientôt après, le dieu soleil arrive au point extrême de l'horizon où il va disparaître. C'est la déesse Netphé, Rhea, qui, faisant l'office de la Thétis des Grecs, s'élève à la surface de l'abîme des eaux célestes. Et, montée sur la tête de son fils Osiris, dont le corps se termine en volute comme celui d'une sirène, la déesse reçoit le vaisseau du soleil, qui prend bientôt dans ses bras immenses le Nil céleste, le vieil océan des mythes égyptiens. La marche du soleil dans l'hémisphère inférieur, celui des ténèbres, pendant les 12 heures de nuit, c'est-à-dire la contrepartie des scènes précédentes, se trouve sculptée sur les parois des tombeaux royaux, opposée à celle dont je viens de donner une idée très succincte. Là, le dieu, assez constamment peint en noir, de la tête aux pieds, parcourt les 75 cercles ou zones auxquelles président autant de personnages divins, de toutes formes et armés de glaives. Ces cercles sont habités par les âmes coupables qui subissent divers supplices. C'est véritablement là le type primordial de l'enfer du Dante, car la variété des tourments a de quoi surprendre. Et je ne suis pas étonné que quelques voyageurs, effrayés de ces scènes de carnage, aient cru y trouver la preuve de l'usage des sacrifices humains dans l'ancienne Égypte. Mais les légendes lèvent toute espèce d'incertitude à cet égard. Ce sont des affaires de l'autre monde, et qui ne préjugent rien pour les us et coutumes de celui-ci. Les âmes coupables sont punies d'une manière différente dans la plupart des zones infernales que visite le dieu soleil. On a figuré ces esprits impurs et persévérants dans le crime presque toujours sous la forme humaine, quelquefois aussi sous la forme symbolique de la grue ou celle de l'épervier à tête humaine, entièrement peints en noir pour indiquer à la fois et leur nature perverse et leur séjour dans l'abîme des ténèbres. Les unes sont fortement liées à des poteaux, et les gardiens de la zone, brandissant leurs glaives, leur reprochent les crimes qu'elles ont commis sur la terre. D'autres sont suspendues la tête en bas. Celles-ci, les mains liées sur la poitrine et la tête coupée, marchent en longue file. Quelques-unes, les mains liées derrière le dos, traînent sur la terre leur cœur sorti de leur poitrine. Dans de grandes chaudières, on fait bouillir des âmes vivantes, soit sous forme humaine, soit sous celle d'oiseaux, ou seulement leur tête et leur cœur. J'ai aussi remarqué des âmes jetées dans la chaudière avec l'emblème du bonheur et du repos céleste, l'éventail, auxquels elles avaient perdu tous leurs droits. J'ai des copies fidèles de cette immense série de tableaux et des longues légendes qui les accompagnent. À chaque zone et auprès des suppliciés, on lit toujours leur condamnation et la peine qu'ils subissent. « Ces âmes ennemies, y est-il dit, ne voient point notre Dieu lorsque lance les rayons de son disque. Elles n'habitent plus dans le monde terrestre et elles n'entendent point la voix du Dieu grand lorsqu'il traverse leur zone. » Tandis qu'on lit au contraire à côté de la représentation des âmes heureuses sur les parois opposées, « Elles ont trouvé grâce aux yeux du Dieu grand. Elles habitent les demeures de gloire, celles où l'on vit de la vie céleste. Les corps qu'elles ont abandonnés reposeront à toujours dans leur tombeau, tandis qu'elles jouiront de la présence du Dieu suprême. » Cette double série de tableaux nous donne donc le système psychologique égyptien dans ses deux points les plus importants et les plus moraux, les récompenses et les peines. Ainsi se trouve complètement démontré tout ce que les anciens ont dit de la doctrine égyptienne sur l'immortalité de l'âme et le but positif de la vie humaine. Elle est certainement grande et heureuse, l'idée de symboliser la double destinée des âmes par le plus frappant des phénomènes célestes, le cours du soleil dans les deux hémisphères, et d'en lier la peinture à celle de cet imposant et magnifique spectacle. Cette galerie psychologique occupe les parois des deux grands corridors et des deux premières salles du tombeau de Ramsès V, que j'ai pris pour type de ma description des tombes royales parce qu'il est le plus complet de tous. Le même sujet, mais composé dans un esprit directement astronomique et sur un plan plus régulier parce que c'était un tableau de science, est reproduit sur les plafonds et occupe toute la longueur de ceux du second corridor et des deux premières salles qui suivent. Le ciel, sous la forme d'une femme, dont le corps est parsemé d'étoiles, enveloppe de trois côtés cette immense composition. Le torse se prolonge sur toute la longueur du tableau, dont il couvre la partie supérieure. Sa tête est à l'occident. Ses bras et ses pieds limitent la longueur du tableau divisée en deux bandes égales. Celle d'en haut représente l'hémisphère supérieur et le cours du soleil dans les 12 heures du jour. Celle d'en bas, l'hémisphère inférieur, la marche du soleil pendant les 12 heures de la nuit. À l'orient, c'est-à-dire vers le point sexuel du grand corps céleste, de la déesse ciel, et figurer la naissance du soleil. Il sort du sein de sa divine mère Néite sous la forme d'un petit enfant portant le doigt à sa bouche et renfermé dans un disque rouge. Le dieu Meoui, l'Hercule égyptien, la raison divine, debout dans la barque destinée au voyage du jeune dieu, élève les bras pour l'y placer lui-même. Après que le soleil enfant a reçu les soins de deux déesses nourrices, la barque part et navigue sur l'océan céleste, l'éther, qui coule comme un fleuve de l'Orient à l'Occident, où il forme un vaste bassin dans lequel aboutit une branche du fleuve traversant l'hémisphère inférieur, d'Occident en Orient. Chaque heure du jour est indiquée sur le corps du ciel par un disque rouge et dans le tableau par 12 barques ou baris dans lesquelles paraît le dieu soleil naviguant sur l'océan céleste avec un cortège qui change à chaque heure et qui l'accompagne sur les deux rives. À la première heure, au moment où le vaisseau se met en mouvement, les esprits de l'Orient présentent leurs hommages au dieu debout dans son naos, qui est élevé au milieu de cette bari. L'équipage se compose de la déesse Sori, qui donne l'impulsion à la proue, du dieu Sev, Saturne, à la tête de lièvre, tenant une longue perche pour sonder le fleuve, et dont il ne fait usage qu'à partir de la 8e heure, c'est-à-dire lorsqu'on approche des parages de l'Occident. Le reis, ou commandant, est Horus, ayant en sous-ordre le dieu Hake Oeris, le phaéton et le compagnon fidèle du soleil. Le pilote manœuvrant le gouvernail est un hiéracocéphale nommé Aou, plus la déesse Nebwa, la dame de la barque, dont j'ignore les fonctions spéciales. Enfin, le dieu gardien supérieur des tropiques. On a représenté sur les bords du fleuve les dieux ou les esprits qui président à chacune des heures du jour. Ils adorent le soleil à son passage, ou récitent tous les noms mystiques par lesquels on le distinguait. À la seconde heure paraissent les âmes des rois ayant à leur tête le défunt Ramsès V, allant au-devant de la barie du dieu pour adorer sa lumière. Au 4e, 5e et 6e heure, le même pharaon prend part aux travaux des dieux qui font la guerre au grand Apophis, caché dans les eaux de l'océan. Dans les 7e et 8e heures, le vaisseau céleste côtoie les demeures des bienheureux, jardins ombragés par des arbres de différentes espèces, sous lesquels se promènent les dieux et les âmes pures. Enfin, le dieu approche de l'Occident. Sève, Saturne, sonde le fleuve incessamment, et des dieux échelonnés sur le rivage dirigent la barque avec précaution. Elle contourne le grand bassin de l'ouest et reparaît dans la bande supérieure du tableau, c'est-à-dire dans l'hémisphère inférieur, sur le fleuve qu'elle remonte d'Occident en Orient. Mais dans toute cette navigation des 12 heures de nuit, comme il arrive encore pour les barques qui remontent le Nil, la barie du soleil est toujours tirée à la corde par un grand nombre de génies subalternes, dont le nombre varie à chaque heure différente. Le grand cortège du dieu et l'équipage ont disparu. Il ne reste plus que le pilote debout et inerte à l'entrée du Naos renfermant le dieu, auquel la déesse Thmei, la vérité et la justice, qui préside à l'enfer ou à la région inférieure, semble adresser des consolations. Des légendes hiéroglyphiques placées sur chaque personnage et au commencement de toutes les scènes en indiquent les noms et les sujets en faisant connaître l'heure du jour ou de la nuit à laquelle se rapportent ces scènes symboliques. J'ai pris copie moi-même et des tableaux et de toutes les inscriptions. Mais sur ces mêmes plafonds, et en dehors de la composition que je viens de décrire en gros, existent des textes hiéroglyphiques d'un intérêt plus grand peut-être, quoique liés au même sujet. Ce sont des tables des constellations et de leurs influences pour toutes les heures de chaque mois de l'année. Elles sont ainsi conçues. Mois de Tobi, la dernière moitié. Orion domine et influe sur l'oreille gauche. Heure première, la constellation d'Orion influe sur le bras gauche. Heure deuxième, la constellation de Sirius influe sur le cœur. Heure troisième, le commencement de la constellation des deux étoiles, les Gémeaux, point d'interrogation, sur le cœur. Heure quatrième, les constellations des deux étoiles influent sur l'oreille gauche. Heure cinquième, les étoiles du fleuve influent sur le cœur. Heure sixième, la tête, ou le commencement, du lion influe sur le cœur. Heure septième, la flèche influe sur l'œil droit. Heure huitième, les longues étoiles sur le cœur. Heure neuvième, les serviteurs des parties antérieures du quadrupède, Mente, le lion marin, point d'interrogation, influe, sur le bras gauche. Heure dixième, le quadrupède Mente, le lion marin, point d'interrogation, sur l'œil gauche. Heure onzième, les serviteurs du Mente sur le bras gauche. Heure douzième, le pied de la truie, influe, sur le bras gauche. Nous avons donc ici une table des influences, analogue à celle qu'on avait gravée sur le fameux cercle doré du monument d'Ozymandias, et qui donnait, comme le dit Diodore de Sicile, les heures du lever des constellations avec les influences de chacune d'elles. Cela démontrera sans réplique, comme l'a affirmé notre savant ami M. Letron, que l'astrologie remonte, en Égypte, jusqu'aux temps les plus reculés. Cette question, par le fait, est décidée sans retour. C'est un petit souvenir que je lui adresse en attendant ses commissions pour Thèbes. Fin de la première partie de 2 de la 13e lettre, ainsi que du 12e fichier des lettres écrites d'Égypte et de Nubie par Jean-François Champollion.